France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, sur France Culture, en ce dimanche matin, Jean-Luc Gaudreau avec vous pour Solae, le rendez-vous protestant, votre magazine proposé par la Fédération protestante de France. Je suis à Strasbourg à l'occasion du Salon Protestant Livre et de la célébration des 500 ans de l'anabaptisme organisé par la médiathèque protestante de Strasbourg et la librairie Jean Calvin en compagnie de deux éminents spécialistes de l'anabaptisme, Neil Blau, docteur en théologie, anciennement directeur du Centre Mennonite de Paris et professeur émérite d'histoire de l'Église à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Et Claude Bécher, lui aussi docteur en théologie, mais avec un parcours varié d'aumônier, de pasteur, de professeur, de conférencier. Avec vous, nous allons parler dans cette émission du mouvement anabaptiste qui fête donc cette année ses 500 ans d'existence. Peut-être pour commencer, resituer historiquement ce mouvement lié, je crois, à ce que l'on appelle la réforme radicale. Bonjour Neil, bonjour Claude.
Bonjour. Je crois que le plus facile, c'est de commencer avec la réforme zurichoise et oui. Ulrich Zwingli. Zwingli qui arrive en 1519, rassemble autour de lui des jeunes et des moins jeunes avides de réforme. Zwingli est, disons, érasmien, et puis il subit aussi l'influence de Luther. Et avec le déroulement de la réforme à Zurich, il y aura des débats, et puis qui vont finir par une séparation. Donc, dans les premières années, on trouve chez Zwingli une critique de la dîme, et donc, dans le monde paysan, c'est reçu comme un indice de justice sociale bien voulu, bien cherché. Chez Luther et Zwingli, il y a l'idée que l'église locale devait être capable de choisir son pasteur, disons pour se défaire de l'autorité des évêques, évidemment. En 1523, donc, la réforme zurichoise devient officielle, c'est-à-dire que l'église de Zurich quitte l'église catholique romaine. Cette réforme se met en place sous l'autorité du conseil municipal, qui sera un début de tension qui va se consolider avec le temps. Et donc, les débats en cours sont autour des sacrements, autour de l'Eucharistie, la scène, et puis aussi du baptême. En 1523, encore, Zwingli est prêt à écouter une argumentation contre le pédobaptême. Et donc, certains de ces jeunes adeptes vont adopter cela. On trouve des critiques du pédobaptême ailleurs, aussi en Allemagne, en Suisse.
Alors, le pédobaptême, pour les gens qui ne savent pas...
Pédobaptême, donc, c'est le baptême des nourrissons.
Des enfants, oui, des petits.
Des nourrissons. Et puis, une deuxième rencontre officielle, en octobre 1523, se déroule encore sous les auspices du conseil municipal. Et là... Certaines des jeunes adeptes de Zwingli commencent à s'irriter un peu du fait que l'Église est en fait dirigée par l'autorité politique. Mmh. Et ça serait une source de tension. On va évoluer vers une séparation en 1525 où le baptême devient le signe d'un rejet d'une Église territoriale, un début de séparation entre l'Église et l'État. Le mouvement commence là, il sera rapidement rejeté, ira ailleurs en Suisse, et puis il s'accompagne d'une éthique, disons, du serment sur la montagne, probablement transmis par Zwingli via Erasme. Et puis voilà, donc le mouvement débute donc en janvier 1525.
Claude Bécher, quels sont les axes prioritaires mis en avant par les anabaptistes, les différences majeures que l'on peut observer avec la réforme dite, elle, magistérielle ?
La différence est essentiellement le rapport aux magistrats. Les réformateurs magistériels s'appuient sur soit le prince, soit le conseil municipal pour faire avancer une cause religieuse ou sociale. Dans l'anabaptisme, il y a cette volonté de ne pas s'appuyer sur le bras séculier parce que l'Église est considérée comme étant plus belle lorsque son accès est laissé libre. Laisser libre, ça veut dire qu'il y a la possibilité elle essaie de refuser de rentrer dans l'Église. Or, au XVIe siècle, c'est quelque chose de relativement neuf qui est proposé, à part la communauté juive. La majorité des Européens étaient compris comme étant chrétiens en vertu de ce que l'on a administré lorsqu'ils étaient nourrissons. Ce qu'il faut dire dans les débuts de ce qu'on appelle l'anabaptisme, donc à Zurich en février 1525, c'est qu'une lettre qui a été envoyée par l'un des protagonistes proto-anabaptistes aux autorités de la ville de Zurich en disant « Je vous en supplie de considérer de laisser libre le baptême, la situation de la ville ne s'en trouvera pas affectée pour autant ». C'était révolutionnaire.
Ah, ouais.
Donc ça, c'est Félix Manns. Il faudra dire quelque chose au sujet des anabaptistes. On le fait courtement, c'est quand même important de le savoir. La notion même d'anabaptisme n'est pas neutre. Ce n'est pas juste la description de ce que signifie étymologiquement le nom, c'est-à-dire rebaptiseur, parce qu'eux-mêmes ne s'appelaient pas comme ça. D'un, ils s'appelaient les frères et les sœurs en Christ, où ils s'appelaient les baptistes, mais il ne faut pas le confondre avec le mouvement baptiste. Ultérieur du baptisme.
On en reparlera par la suite.
Ouais. Donc, c'est intéressant de considérer ceci. Un troisième marqueur, c'est non seulement la séparation de l'Église et de l'État, comme on le dirait aujourd'hui, mais également le refus d'utiliser le glaive, soit pour promouvoir une idée, encore moins une religion, mais aussi pour se défendre.
Donc on met en avant la non-violence comme une base de relation à l'autre et même
exactement.
Politiquement.
Et c'est important parce que 1525, c'est l'échec du soulèvement paysan qui se réclamait des idées protestantes et du contenu biblique pour protester contre la féodalité et aussi, à l'époque, on s'imagine plus aujourd'hui, l'abus par le clergé de leurs privilèges.
On avait parlé sur cette antenne avec Hugues Dossy du mouvement huguenot militaire et avec justement à l'inverse une démarche parfois violente dans la façon aussi de revendiquer cette foi protestante.
Et ce qui peut paraître très intéressant pour prolonger cette pensée, c'est que les mouvements dits anabaptistes qui avaient recours à la violence pour faire avancer leurs idées, comme Münster en Westphalie et puis d'autres révolutionnaires qui mettaient tout en question, ont disparu, tandis que les mouvements typés par le pacifisme ont perduré au travers des siècles jusqu'à nos jours.
Jusqu'aujourd'hui encore.
Oui.
Neil ?
Oui, c'est une période compliquée, comme Claude vient de le dire. C'est le mouvement paysan qui est largement inspiré par des idées du jeune Luther, de Zwingli, mais qui aboutit à la violence. Et puis ça pose une question pour ceux qui deviennent anabaptistes, parce qu'effectivement, il y a certaines causes communes dans certaines régions, autour de Chafouze ou ailleurs, où on trouve anabaptistes et paysans ensemble.
Oui.
Et donc la question de la non-violence sera un débat au sein de l'anabaptisme suisse et sud-allemand jusqu'en 1527, avec un premier synode à Schleitheim, près de Chafouze, où le refus de la violence devient un élément de confession de foi pour l'anabaptisme, et ça sera ainsi.
La Suisse va être extrêmement importante, finalement, dans la mise en place, mais aussi le développement de l'anabaptisme.
Oui, et c'est pas étonnant. Voici une région qui a plus l'habitude que les autres régions d'Europe d'avancer confédérée. Et donc, aussi bien les huguenots que les anabaptistes peuvent se réclamer de cette vieille habitude de se consulter et de tenir les coudes ensemble.
Oui, mais la répression se met en place assez rapidement, quand même.
Quand même, oui. Ouais.
Et c'est intéressant, à 1527, c'est tellement évident que la répression devient totale qu'il n'y a plus d'autre option que de se séparer et d'avancer comme une église persécutée le ferait dans d'autres régions du monde aujourd'hui, c'est-à-dire sans recours au pouvoir, à aucun pouvoir, ni les seigneurs, ni les municipalités.
Justement, je pensais à l'histoire des Vaudois qui a précédé au nord de l'Italie. Comment justement les choses peuvent se mettre soit en opposition, soit en lien ?
Des historiens ont un peu souligné que lorsque le valdéisme a adhéré au port légitime du glaive sous l'influence de certains réformateurs magistériels, c'est à ce moment-là qu'apparaît l'anabaptisme. Pas loin, dans ces années-là. Mais on retient qu'au début, ce n'était pas une volonté de vivre séparé et de séparer l'Église, mais c'était une sorte de congrégationalisme non séparatiste, mais qui est devenu un congrégationalisme séparatiste parce que c'était quasiment la seule option.
Ouais, la pression des circonstances, ouais, ça a beaucoup joué. Oui.
Comment l'anabaptisme va se répandre en Europe et au-delà même?
Il y a donc, dans la théologie du baptême, il y a plusieurs textes importants, donc Matthieu 28, allez, faites des disciples, les baptisons, etc. Et puis Marc 16, et ça c'est important, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et donc, ils étaient dans un premier temps, ils étaient des évangélistes, hein. Ils allaient partout, ils annonçaient l'évangile, et puis dans certaines régions, il y avait une réception très positive. Hein. On parle de 1525, disons, de centaines de baptêmes dans certaines régions de la Suisse. Hein.
En France,
les premiers foyers étaient direction les terres des Hussites, parce que là-bas, ils avaient plus l'habitude de cette revalorisation.
Un petit mot sur les Hussites, pour situer les choses.
Il y avait un 14e, 15e siècle, un réseau international valdo-hussite. Même à Strasbourg ou en France, puisqu'on en parle, en France, il y avait quelques idées qui sont parvenues à Lyon, et il y en avait dans le nord de la France. À Paris, les premiers à être tués par François Ier, c'était ceux qui étaient, dit-il, des anabaptistes. Oui. Parce que Jean Calvin et Ulrich Zwingli avaient écrit qu'ils n'étaient pas des anabaptistes, et donc le mot anabaptiste pourrait être lié à séditieux. Oui. Et donc François Ier a pris prétexte de ces documents-là pour avoir tué, et quand les princes protestants ont demandé à François Ier pourquoi il a exécuté à Paris des protestants, il répliquait « Je n'ai fait que tuer des anabaptistes ».
Le Laudate et Ménonite ensemble sur France Culture, vous écoutez Soleil, rendez-vous protestant. C'est une émission spéciale ce matin enregistrée à Strasbourg à l'occasion du festival Protestant Livre et d'une célébration des 500 ans de l'anabaptisme organisée par la médiathèque protestante de Strasbourg. Un entretien avec les docteurs en théologie Claude Bécher et Neil Blau. L'anabaptisme aujourd'hui, quels sont les courants, quelles sont les unions d'église qui peuvent aujourd'hui se rattacher directement ou s'y apparenter? On a parlé des baptistes, par exemple. Comment vous situez les choses?
Historiquement, encore il y a 100 ans, la majorité de Mennonites ou anabaptistes étaient européens ou nord-américains. Mmh. Il y avait un mouvement missionnaire qui a commencé au milieu du 19e siècle aux Pays-Bas. Et qui était rejoint par des Allemands et des Russes et d'autres. Et puis, par le mouvement missionnaire, je dirais le monde mennonite a évolué en grande partie comme le reste du monde chrétien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, La majorité des mennonites se trouvent dans les pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Il y a encore un certain nombre important en Amérique du Nord, mais ils ne sont pas les plus nombreux. Et puis en Europe, on est un peu les parents pauvres aujourd'hui.
Mmh. Alors en France, on les trouve surtout dans l'Est de la France. Ça n'est pas pour rien que nous sommes à Strasbourg pour en parler.
Oui, en région parisienne aussi.
En région parisienne.
Les actions sociales qui ont été entreprises, mais aussi l'évangélisation. Ce n'est pas l'intérêt des Mennonites nécessairement de faire des églises Mennonites. Ouais. L'intérêt théologique fondamental est plus la suivance sérieuse et concrète et communautaire du Christ. À partir de là, ce n'est pas l'étiquette en elle-même qui est la garante d'un contenu, mais le témoignage pour la paix, la bonne nouvelle de l'évangile proclamé, entendu, reçu et vécu, ceci paraît capital. Alors, parmi les autres églises qui peuvent se réclamer de cette commémoration, il y aurait certainement parmi celles-ci ce qu'on appelait ou qu'on appelle encore toujours les églises de professants, c'est-à-dire celles dont on devient membre par témoignage personnel de sa foi. Parmi là-dedans, il y a les communautés baptistes, dans leur pluralité également. Il y a les églises indépendantes, il y a des églises libres.
Une grande partie du mouvement évangélique, finalement.
Une grande partie du mouvement évangélique.
En France. Les Mennonites, donc, si l'on peut dire, ce sont les anabaptistes, ceux qui sont le plus proche de cette origine anabaptiste.
Le mouvement dont on a parlé a commencé en Suisse. Et puis, il y avait des mouvements, il y avait plusieurs. Il y en avait Autriche, Moravie, et puis aux Pays-Bas. Et puis il y avait le grand désastre de Münster, où des illuminés, des millénaristes se sont accaparés de la ville. C'est terminé en désastre, en bain de sang. Et puis le mouvement, je dirais non-violent, a été rassemblé par un prêtre devenu anabaptiste. Il s'appelait Menno Simon. Et donc aux Pays-Bas, on appelait ces gens-là des ménistes ou des mennonites. Et puis, avec le temps, les autres ont adopté ce nom.
Les médias aiment régulièrement faire des reportages sur les Amish, en particulier alors en Pennsylvanie, aux États-Unis. On a en tête aussi un certain nombre de films, et sans doute en particulier Witness, des séries, Banshee. On est là dans une branche aussi de l'anabaptisme, peut-être un peu plus radicale.
Je dirais un mot, et puis Claude, il connaît très bien cette histoire, mais je dirais qu'en 1527, on a proclamé une séparation du monde assez radicale, sous la pression des circonstances. Ouais. Cette position, pour un certain nombre d'anabaptismes, est devenue un point non négociable. Mmh. Mais parfois, les situations ont évolué, et les Mennonites se sont plus ouverts. Et il y a cette tension, ces deux mouvements, et puis ça s'exprime dans le mouvement Amish.
Claude ?
C'est ça, la volonté de ne pas se conformer aux habitudes du monde, qui peuvent être néfastes, m'as-tu vu, accumulatrices, etc. Elle est d'abord intérieure. Si on commence d'abord par l'extérieur, on arrive à une sorte de choses qui se reproduisent de génération en génération. Je remarque quand même que les Amish et les communautés dites mennonites de Bolivie, etc., qui sont vraiment des personnes qui se sont auto-expulsées de toute proximité d'autres civilisations.
Il y a eu même certains scandales, on en a entendu parler en Amérique du Sud.
Eh bien, celles-ci peuvent être suivies non seulement parce que dans les Écritures, on trouve des fois aussi des vues négatives des autorités. Voyez l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 13, par exemple, mais également cette sorte de dualisme entre le monde et le Christ lui-même, le dit. Mais ce retrait a été amplifié, à mon avis, par un facteur très humain. Voici des mouvements qui ont, d'une manière répétée, connu la persécution ou la maltraitance, disons au moins, d'autorités différentes. Quand je regarde ceux qui sont arrivés en Bolivie ou dans des endroits qui sont documentés maintenant, eh bien, ce sont des gens qui ont connu la maltraitance en Europe du Nord, Ensuite, quand ils sont arrivés en Ukraine, ensuite, quand est venu le bolchevisme et puis Staline, et puis tout d'un coup, il manque une génération entière de leur famille et qui trouve moyen de se retrouver, ils trouvent un refuge quelque
part. C'est ça, j'allais utiliser ce mot, c'est une forme de refuge qui s'est mis en place.
C'est ça. Donc, mais il faut que vous compreniez que ce n'est pas nécessaire dans l'anabaptisme d'avoir une vue aussi négative des autorités humaines. Celles-ci peuvent être servantes de Dieu, Romains 13 et pas Apocalypse 13, dans certaines conditions et avec une manière sélective de leur être soumis. C'est une autre lecture du ménonitisme contemporain où les gens s'habillent comme vous et moi aujourd'hui.
Bien sûr. Alors justement, j'avais envie de terminer cet entretien avec vous deux. Sur 500 ans après sa naissance, qu'est-ce qui est pertinent encore aujourd'hui dans l'anabaptisme, en particulier dans la période qui est la nôtre, parce qu'on parle de non-violence et on est en pleine période justement où les bruits de guerre sont là tout autour de nous, et puis pas que des bruits même, où des positionnements de politique ne sont pas dans la tendresse. Et bon, voilà, en quoi justement on peut puiser là dans ces racines anabaptistes peut-être une pertinence pour vivre la foi protestante aujourd'hui?
Certains éléments de l'anabaptisme sont entrés dans les mœurs chrétiennes, disons séparation de l'Église et l'État, oui, etc., la liberté de conscience, etc. Mais pour moi, une des choses importantes, c'est un appel au monde chrétien dans son ensemble, par rapport à la paix, par rapport à la violence, parce que l'Église, à travers les siècles, a souvent justifié la violence, a souvent béni les canons, et les chrétiens se sont entretués. Et je pense que la question de paix au niveau chrétien, pour moi, les Mennonites peuvent appeler à se saisir de l'importance de ce positionnement de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Et puis on voit, dans l'Église catholique, on évolue de la guerre juste vers la paix juste. On voit les catégories sont en train d'évoluer. Et je crois que c'est très important parce qu'en Ukraine et en Russie, c'est des chrétiens orthodoxes qui sont... Et puis on voit les débuts du nationalisme chrétien, disons, le nationalisme chrétien aux États-Unis, dans le monde évangélique. Et disons, il faut à tout prix éviter ce...
Je rencontrais dernièrement des Ukrainiennes qui avaient quitté l'Église orthodoxe, justement, à cause de la situation politique et religieuse mêlée. Et ça, c'est une réalité à laquelle on est vraiment confronté. Et on pourrait faire le pendant avec les États-Unis. Claude, sur cette pertinence aujourd'hui.
Il y a de belles choses qui se passent et des choses plus... reflet de la violence intérieure. L'important pour l'anabaptisme, c'est que ça doit se transformer en éducation pour la paix et qui commence d'abord dans l'intériorité de chacun de nous, c'est-à-dire de débusquer les violences, de travailler pour qu'elles se transforment en forme de bienveillance active. En théologie, on fera quand même une distinction entre une justice qui est punitive ou qui essaye de l'être et une justice qui est restaurative. La justice restaurative cherche la réconciliation et la guérison. La justice punitive s'arrête à un tiers du chemin. Et je pense qu'il y a là des nuances intéressantes à repenser, particulièrement dans un contexte où les chrétiens, dans leur ensemble, deviennent des minorités.
Justement, on n'en a pas parlé, mais les Mennonites ont été très impliqués sur la mise en place de la justice restaurative. Concrètement, Neil,
ce matin, on avait évoqué Howard Zerr, qui est un des théoriciens, mais aussi au Canada, il y avait pas mal de Mennonites qui ont été impliqués dans la mise en place de la justice restaurative.
Et sur la question sociale, la relation à l'autre, aux besoins du prochain, c'est en pensant là encore au Sermon sur la montagne, c'est quelque chose qui fait partie aussi du vécu anabaptiste.
Oui, en protestantisme en général, il ne faut pas confondre les moyens avec les fins. Les moyens, ça paraît être la justification par la foi, ou l'action de l'esprit, ou la régénération des moyens. La fin, c'est-à-dire ce qu'elle vise, ce qu'elle est censée permettre, c'est une société où il fait bon vivre, où la justice habite, où les gens se traitent bien. Et je pense que cette sorte de utopie, diraient certains, mais de promesse du Christ, diraient d'autres, est quelque chose qui est au cœur de la visée d'une théologie qui se veut anabaptiste. une société où il fait bon vivre pour tout le monde.
Eh bien, merci beaucoup. C'est avec ces mots et cette belle perspective, finalement, que nous allons nous séparer. J'aurai le plaisir de retrouver Neil Blau prochainement à l'occasion de l'Assemblée du désert, le premier dimanche de septembre, puisque le thème sera autour de l'anabaptisme et de la diversité, finalement, du protestantisme. Et Neil, vous participerez à une table ronde avec Sébastien Fatt, qui sera diffusée le deuxième dimanche de septembre sur France Culture. Et merci beaucoup, Claude. Et puis, que la paix nous accompagne et nous conduise. Merci à vous.
Merci, avec plaisir.
Et avant de nous séparer, pour quelques livres qui peuvent vous permettre d'aller plus loin sur l'histoire anabaptiste, aux éditions Ménonites, « Graines d'anabaptisme » d'Arnold Snyder, petit livre facile à lire qui répond aux questions essentielles sur le sujet, publié sous les auspices de la Conférence Ménonite mondiale. Alors il ne s'agit pas d'une définition normative, mais plutôt d'une base de discussion au sein des églises issues du courant anabaptiste et au-delà. Aux éditions de la Talvogne, Théologie de l'anabaptisme, une interprétation de Robert Friedman, qui relève le défi de dessiner les contours d'une théologie des premiers anabaptistes. L'auteur fut marqué par l'épreuve du nazisme, la persécution et l'obligation de fuir aux États-Unis, et par son cheminement personnel et ses immenses connaissances, il a donné un élan nouveau à la recherche sur l'anabaptisme. Son regard venu de l'extérieur, sa curiosité insatiable pour des textes jusqu'alors presque inconnus, sa sympathie évidente pour les formes extrêmes et communautaires du témoignage chrétien ont fait de lui l'un des historiens les mieux placés pour faire revivre la fraîcheur de la spiritualité des débuts de l'anabaptisme. Chez Excelsis, radicalement chrétien, élément essentiel de la démarche anabaptiste de Stuart Murray. C'est une démarche très intéressante qui est ici proposée et qui consiste à extraire progressivement l'anabaptisme de ses différentes enveloppes traditionnelles, ménonites, amish, etc., pour en dégager les principes essentiels applicables par les chrétiens de n'importe quelle dénomination aujourd'hui, afin de vivre l'évangile dans le présent d'une société post-chrétienne. Et puis enfin, et pour prolonger ses propos ce matin ici sur France Culture, de Claude Bécher, aux éditions du CERF, Les Révoltés de l'Évangile, Balthazar Hummayer et les origines de l'anabaptisme, c'est un retour aux origines d'une confession chrétienne. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Jean-Louis Deloncle à la prise de son ce matin. Cette émission est à réécouter sur le site protestantpluriel.org, également celui de France Culture, naturellement, ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Vos programmes continuent ici sur France Culture avec dans quelques instants Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Et moi, je vous souhaite naturellement encore un très très bon dimanche à chacune et chacun. Jesus Christ is born. Oh, my children, just go to Jesus.
Jesus, that Jesus Christ is.